de dónde son, que de dónde son,
que son de la barricada y de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada y de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada.
Embargo, existence, expérience, résistance.
Alors, comme tu l'annonçais, Maud, un petit topo sur le G20, mais pas seulement sur les arrêtés. Alors, effectivement, le prétexte, c'est une manifestation de soutien aux arrêtés qui a lieu vendredi soir. Je vous l'annonce tout de suite, je vous la rappellerai plus tard. C'est à 17h30 au Square Cabot, métro Atwater, donc vendredi 12 novembre. Mais vendredi 12 novembre, c'est aussi le G20 à Séoul. Alors, c'est une manifestation qui, en même temps, est en solidarité avec les manifestations qui vont avoir lieu à Séoul. Et pour faire un peu le suivi sur la raison de ces arrestations-là. C'est-à-dire qu'on a parlé des conditions de détention, je vais revenir sur la situation des arrêtés en tant que telle, mais c'est important de remettre en contexte la source de pourquoi les gens sont allés manifester et pourquoi jeudi prochain, il y aura plus de 50 000 polices en train de faire la chasse à beaucoup plus que 50 000 manifestants à Séoul. Alors notamment, il y a plusieurs communiqués en ce moment qui circulent de la coalition à Séoul des organisations sociales. Donc parmi ces organisations sociales-là, c'est une coalition qui réunit des groupes comme un groupe qui s'appelle Le Monde n'est pas à vendre, dont le nom est évocateur, beaucoup de syndicats, beaucoup d'organisations étudiantes, également le mouvement paysan associé à Via Campesina, donc mouvement international paysan. Et on voit, en regardant les revendications, que le type d'argumentaire mis de l'avant par cette coalition-là est exactement la même que on voit le même spectre de revendications contre les politiques du G20 qu'on a vu à Toronto et qu'on voit en fait depuis 10-15 ans face à toutes ces rencontres-là. Alors rappelons qu'une base de l'argumentation, c'est que du mouvement le plus radical au plus libéral qui s'oppose au G20, c'est la remise en question de la légitimité. Puisque même d'un point de vue de la démocratie libérale représentative actuelle, les personnes qui se réunissent au G20 n'ont pas de mandat. Ils n'ont pas le droit... Un représentant de l'État, il n'y a pas carte blanche comme ça, comme c'est le cas au G20, où ce que ça y va de grandes déclarations, et tout ce qui est décidé au G20 est ensuite appliqué dans les pays. Donc, au lieu du contraire, même du point de vue de démocratique représentatif. Au-delà de ça, c'est aussi un symbole de l'application des politiques capitalistes et néolibérales. Donc, c'est donc les revendications en matière de santé, comme on parlait plus tôt, ou les revendications en matière d'accès à la terre, notamment dans les pays où ce que la paysannerie est pas encore éradiquée comme ici, même s'il reste des gens qui se battent. Donc, c'est ce même spectre de revendications-là qu'on voit. Alors, en ce moment, ce qui se passe à Séoul, c'est assez impressionnant. Il y a des démonstrations de force de la police. Ils sont assez épeurants. Je vous avoue que je pensais que les gros anti-émeutes du Canada, c'était épeurant, mais des petits ninjas coréens qui sautent sur les manifestants, c'est tout à fait inquiétant. Et je vous recommande quelques bons vidéos sur des sites commerciaux qu'on mentionnera pas. Et aussi, c'est le resserrement des frontières, c'est-à-dire que parallèlement, donc on ouvre grand les portes aux représentants du G20, et là, la fameuse coalition qui s'appelle Put People First, donc mettre les gens en premier, qui est cette coalition avec tous ces groupes-là, Via Campesina, Le Monde n'est pas à vendre et d'autres syndicats, dénonce le fait que ils ont invité des personnes à participer à un sommet des peuples. Donc c'est une tradition aussi, quand il y a des sommets du G20, d'organiser des sommets des peuples qui sont un peu comme des forums sociaux, des conférences dans lesquelles les groupes sociaux du monde réseautent. Plus de 200 personnes se sont vues refuser l'accès à la Corée. Il y a notamment eu des expulsions. Il y a plusieurs activistes qui étaient là depuis plusieurs mois, parfois plusieurs années, qui ont été déportés de Corée en prévision du G20. Alors, il y a vraiment ce mouvement-là de faire venir des représentants d'État et de mettre dehors, littéralement, des militants, militantes des droits humains, des droits paysans, etc., de les mettre dehors. Alors, ça, c'est le contexte à Séoul. Et donc on voit que ces manifestations-là vont avoir lieu avec un peu le même climat. Notamment, il y avait une conférence de presse cette semaine où ce que la coalition annonçait qu'elle allait se rendre vers le lieu physique du sommet, qui évidemment va être barricadé comme à son habitude. Et évidemment, à ce moment-là, la police dit qu'ils vont les empêcher. Alors il y a tout ce discours après ça qui s'articule autour de la violence. Les manifestants seront-ils violents? On voit la même rhétorique et même les parallèles avec Toronto sont faits, là. Est-ce que les Coréens seront aussi violents que les gens à Toronto, là, dans les médias? C'est assez drôle. Et on voit donc que c'est cette même rhétorique de « on va aller confronter ce sommet-là » et là, ah ben c'est les manifestants qui sont violents puisque la police a été obligée de les attaquer puisqu'ils ont marché vers une barricade qui n'était pas légitime. Fait que cette espèce d'argument-là, comme si c'était pas les politiques du G20 qui étaient la source même de la violence ou le fait de déployer une occupation de type militaire avec 50 000 policiers au centre-ville de Séoul, comme si c'était pas ça qui pouvait être vu comme de la violence. Alors, ça serait un peu ça mon topo pour Séoul, mais je ferai le lien avec ce qui se passe au Québec, puisque donc je vous le disais, il y a une manifestation vendredi qui est à l'initiative de la convergence des luttes anticapitalistes 2010 à Montréal et des arrêtés. Donc, puisque on rappelle, il y a eu 1000 arrestations au mois de juin à Toronto, et de ces 1000 arrestations là, il y a 200 personnes qui se sont retrouvées avec des accusations criminelles. Il y en a 20 notamment, en fait 19 maintenant puisqu'il y en a un qui a vu ses charges retirées, qui ont été arrêtés de façon préventive, donc c'est-à-dire avant les manifestations de la fin de semaine du G20, et qui sont accusés de complot. L'accusation du complot, c'est d'avoir organisé les manifestations. Alors là, on voit une confusion entre manifestation et Black Bloc. Là, on les accuse d'avoir organisé le Black Bloc parce qu'ils ont organisé des autobus, par exemple les gens de Montréal qui ont organisé des autobus pour se rendre à Toronto. C'est d'ailleurs très amusant puisque dans la logique de ces arrestations-là, on arrête les gens qui ont organisé les autobus et après ça, ils ont arrêté les 70 personnes du Québec qui dormaient dans le gymnase de l'Université de Toronto le dimanche matin, les arrêtant comme étant le Black Bloc, comme si le Black Bloc, ces gens qu'on voit se réunir habillés en noir dans les manifestations, comme si ils étaient tous allés dormir au gymnase en attendant que la police vienne les réveiller. D'ailleurs, donc de ces 200 arrestations-là, toutes les personnes qui étaient arrêtées au gymnase on leur a retiré leur charge. Alors pour la petite histoire, on leur a retiré leur charge parce que il n'y avait pas de mandat, en fait, quand la police est rentrée pour arrêter tout le monde dans le gymnase de Toronto. Ils ont fait ça sur un high d'adrénaline du dimanche matin. Et il n'y avait pas vraiment de mandat d'arrestation. Donc, ils n'ont même pas pu s'amuser à essayer de trouver des preuves. Alors, en ce moment, au Québec, des 100 et quelques personnes qui avaient des accusations criminelles, il en reste 8. Alors, c'est pour vous dire, là, heureusement que, parce que là, tout le discours, c'était que tout le Black Bloc et toutes les destructions avaient été causées par les méchants Québécois qui étaient allés foutre le bordel, pour dire ça poliment, à Toronto. Et il reste 8 personnes accusées avec quand même des conditions assez difficiles. Il y en a 4 là-dessus qui sont en prison à la maison, c'est-à-dire que concrètement, c'est comme être en prison, mais c'est tes amis qui sont tes geôliers, ça coûte moins cher. Donc, il y a 4 personnes qui... ça met en question la question d'être présumé innocent, puisqu'il n'y a pas encore aucune preuve qui a été versée pour dire sont-ils coupables ou non, mais ces personnes-là voient leur vie hypothéquée depuis 5 mois. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur emploi ou des choses comme ça. Notamment, il y en a un qui n'a pas le droit d'être... il y a un ordre de non-association avec son collègue de travail. Alors, ça va très mal pour travailler dans ce temps-là. C'est illégal d'être avec son collègue de travail. Alors ça, c'est pour la partie des accusations. Il reste en tout au Canada une centaine de personnes là, qui ont encore des accusations criminelles. Mais à chaque fois qu'il y a des audiences, la moitié tombe quasiment. D'un autre côté, toutes les personnes qui ont été arrêtées, c'est-à-dire accusations ou non, ont entrepris plusieurs démarches pour remettre en question les activités de la police, les conditions de détention, etc. Alors, on nommera notamment, il y a eu une audience à la Commission interaméricaine de droits humains qui a eu lieu il y a 2 semaines pour dénoncer justement la situation et le caractère politique de cette répression-là, le fait que c'est pas pour rien qu'on arrête les gens quand ils contestent politiquement, et même si les accusations tombent finalement, c'est une façon de dissuader les gens de contester et de s'opposer. Alors il y a quand même eu quelques petits résultats, notamment le chef de la police de Toronto, Monsieur Blair, a été obligé d'annoncer que 90 policiers seront sanctionnés parce qu'ils avaient volontairement enlevé leur badge pour ne pas être identifiés lorsqu'ils frappaient des manifestants. Et il y a aussi une commission parlementaire qui est en cours. Il y a eu plusieurs témoignages. Puis je vais juste vous faire un petit extrait du type de débat qu'on y voit. Parce qu'il y a deux jeunes femmes québécoises qui sont allées témoigner il y a une semaine. Et à ce moment-là, donc comment ça se passe, une commission parlementaire, on fait un témoignage, puis les députés peuvent nous poser des questions. Alors le député conservateur albertain, Brent Radgeber, a questionné les jeunes femmes sur le fait qu'elles se sont rendues à Toronto à bord des autobus fournis par la coalition anticapitaliste, donc la CLAC, la même qui organise les manifestations. Et alors, elles ont répondu oui, mais et alors, c'est pas illégal en soi. Et donc lui, il a répondu donc ça signifiait, si elles avaient pris ces autobus-là, que à long terme leur objectif c'était de renverser le gouvernement de Stephen Harper. Donc leur manifestation était illégale. Donc l'activité de la police était bien fondée. Alors bon, on sait sûr que c'est facile de taper sur la tête des députés conservateurs. Ils ont l'art des déclarations ridicules, mais celle-là a quand même surpassé certaines espérances. Alors voyez-vous, maintenant, si vous allez manifester contre le gouvernement Harper, c'est que vous voulez renverser le gouvernement, donc c'est de la sédition, du complot contre l'État, etc. Alors on voit la logique qui se déroule. Alors donc, je rappelle, la manifestation a lieu vendredi à 17h30 au métro Atwater. Puis vous pouvez avoir plus d'informations sur le site de la CLAC, clac2010.net. On y trouve aussi une nouvelle édition du journal de la CLAC. Le premier s'appelait Coup de semonce, le deuxième s'appelle Coup de chien. Si comme moi, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, eh bien allez voir le journal, il y a une définition. Nicolas, est-ce que tu aurais des questions, commentaires, ajouts?
Ben, seulement commenter qu'au niveau des médias de masse en général, il y a absolument à peu près aucun commentaire sur les thèmes des discussions qu'il y a durant les trois jours qui constituent le G20 en général, alors que c'est des décisions qui sont prises qui concernent la majorité de la population, tant au niveau politique qu'économique. On nous donne un communiqué pour chaque G20 de 2 pages qui est supposé nous résumer 3 jours de conversation. Alors on peut se poser des sérieuses questions quant à la transparence de ces sommets-là.
Puis d'ailleurs, sur le site de CLAC 2010, vous pouvez retrouver un documentaire qui a été fait par Nicolas, petite plug, sur le G20 et qui peut expliquer les enjeux qui entourent ces rencontres-là. Alors, on va prendre une petite pause musicale avec justement la chanson G8, G20, Crash the Meeting. C'est une chanson en anglais, mais qui a été faite avant le sommet à Toronto. Puis pour la petite histoire, les deux personnes qui ont fait ce petit clip-là, qui a été vu par plus de 100 000 personnes assez rapidement, les deux personnes qui ont fait ce clip-là se sont vues accusées d'avoir incité à la violence. Alors c'est le petit contexte de cette chanson-là, G8G20, Crash the Meeting. On se retrouve dans un instant, vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM. On se retrouve pour la suite de En bas à gauche.
Can't go in the world without opposition to your plans. I'm making it twirl around your greedy fingers. We watching it swirl down the drain. Insane economics are false. See, we're not buying what you're selling. Even with your propaganda, telling media barons rebelling. We're yelling, no justice, no peace in the streets. It's just us versus the elite's police. See, a better world we see. So we're free when we speak. Oil's at its peak, and we gotta defeat. The status quo will keep us unable to speak. On our knees saying, please, we reap what we sow. So you know the whole plan is at
out of control. They go to home power while we get the blindfold. Truth be told, it's the same old song and dance. We're down to the wire. Might be our last chance to advance. Humanity, take your stance. The power of the people, a street romance. United, we cannot be defeated. G20, we're ready to die. It's time to creep them. G8, G20, they few, we many. G8, G20, they few, we many. Every single one of us has a reason. Together we're strong, let's crash the meeting. Every single one of us has a reason. Together we're strong, let's crash the meeting. Chattering the so-called social peace. Windows getting smashed live on TV. 2010 is here, confront the beast. Reclaim the streets, fuck the police. Bringing that fire, it's incendiary. Cause they're locking down streets with the military. And the progress is death, it's a cemetery. This ain't Canada, this is native territory. Turtle Island, East Coast of Salish. Fucking colonizers just keep on taking. February 2010, confront invasion. G20, doom, leave Bay Street blazing. Destroy the SBP wherever it gets stationed. Take over everything with occupation. War of all, more self-determination. Social war against our nation. No control against domination. Against the empire and its colonization. Against the war and the government agents. Against authority for liberation. G-A.